Aujourd'hui, dans l'émission Violet, nous abordons le thème de la transidentité et du genre avec nos invités aujourd'hui sur le plateau. Je vais les laisser se présenter. Vous avez la parole directement. On va commencer de la gauche vers la droite.
Ok, du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Ono. Je suis une personne trans non-binaire d'origine albanaise. Donc, je viens aujourd'hui ici pour parler de la question des transidentités et plus précisément des transidentités des personnes queer albanaises et racisées.
Très bien, on va passer à la personne suivante.
Moi, je m'appelle Floréal. Mes pronoms sont I2LE. Et je suis membre de la cellule administrative de l'association Transat.
Ok.
Bonjour, moi c'est Sacha, elle tout simplement. Et je suis accompagnatrice sociale de manière bénévole à l'association Transat.
Et moi c'est Alexandre, donc il. Et je suis aujourd'hui très heureux de vous recevoir en plateau pour aborder le sujet de la transidentité et du genre en général. J'aurais aimé commencer, comme je vous l'ai indiqué, par une petite chronologie de ce qu'est la transidentité selon les administrations ou les médecins ou les psychiatres français. Et puis ensuite, nous aborderons ce sujet à travers votre point de vue pour avoir vraiment l'avis des personnes concernées. On sait que les personnes trans ont existé par l'histoire de très nombreuses manières et souvent on associe l'analyse de l'histoire par ce prisme trans comme un anachronisme et je voulais donner la parole à une personne trans qui s'appelle Lexi sur Instagram qui nous parle justement de ce sujet et qui nous dit est-ce que parler de transidentité dans l'histoire, est-ce vraiment un anachronisme ? Hop, désolé pour la petite interlude métal. J'ai oublié d'enlever un son qui était passé. Alors, on va partir donc sur Lexi. Est-ce qu'on entend bien ? Oui.
Fruit de ces dernières années serait le résultat de l'importation d'un concept américain devenu une mode. Et pourtant, des traces d'archives qui témoignent d'une forme de transidentité dans l'histoire, dans le temps long, on en a pas mal. Avant de partager des exemples concrets, documentés, j'avais envie que dans cette vidéo, on se concentre sur l'idée d'anachronisme à parler de transidentité dans l'histoire. Parce que cette idée d'un anachronisme fondamental, elle est aussi très instrumentalisée. Et pourtant, stricto sensus, parler de personnes trans dans l'histoire, c'est effectivement un anachronisme. Mais la question est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le premier point à éclaircir, c'est la question des dénominations. Les termes utilisés aujourd'hui pour nous désigner sont récents. Le terme trans, transsexuel ou transgenre, il se développe notamment dans les milieux médicaux, dans les années 50 et 60. Mais il y a aussi plein d'éléments chimiques qu'on a découverts et nommés très récemment. Ça ne veut pas dire que la matière elle-même n'existait pas. Le fait qu'on utilise malgré tout des dénominations contemporaines ne veut pas dire qu'on invente et qu'on calque un concept moderne sur le passé. La difficulté à comprendre les transidentités historiques, elle repose aussi sur le fait que derrière cette dynamique fondamentale de changement, de variation du genre, il y a en fait des parcours et des réalités quotidiennes extrêmement différentes d'un contexte à un autre. Et ça aussi, ça permet plus facilement de décrédibiliser la présence trans dans le temps. Contrairement à des concepts qui semblent universels et qui semblent avoir été immuables dans le temps, l'idée de masculinité, l'idée de féminité, transidentité, ça semble ne jamais être tangible. L'histoire et l'anthropologie des transidentités, ça fait déjà quelques années qu'il y a beaucoup de chercheuses qui s'y intéressent. Et la solution qui semble être la plus conventionnellement acceptée à ce problème, c'est le fait de parler de forme de transidentité, en y associant, quand c'est possible, les termes contemporains pris aux sources primaires. Mais du coup, est-ce qu'il existait des personnes trans au Moyen-Âge ? Selon notre vécu de la transidentité, non. Mais il existait déjà des personnes dont le genre assigné, d'après observation et association du genre au sexe biologique, n'était pas celui que Yale se reconnaissait et que leurs contemporains autour leur reconnaissaient également. On peut de fait dire que l'usage du terme trans dans le passé est un anachronisme sélectif, c'est un outil intellectuel. Et il est d'autant plus utile quand on voit aujourd'hui la confusion que génère encore l'usage du mot trans dans le contexte socio-historique dont il est issu. Les attaques et les résistances à ce choix de dénomination, elles ne sont pas neutres. D'une part, on accepte, je pense, assez clairement que dans le temps long, dans l'histoire, les mots changent même quand ceux qu'ils définissent restent la même chose. D'autre part, on accepte de désigner certaines choses par des mots qui ne les désignaient pas à leur époque. Au Moyen-Âge, on ne parle pas de Moyen-Âge. À la Renaissance, on ne parle pas de Renaissance. Le fait qu'on refuse ce même usage au terme trans ou transidentité est lié au fait qu'on refuse d'admettre qu'il ait pu y avoir une présence trans, au fait qu'on ne veut pas l'avoir. Et dans les cercles universitaires et académiques, c'est une dynamique similaire qui justifie d'orienter et de réduire les analyses des sources. Invisibiliser l'hypothèse de transidentité au profit d'une forme d'homosexualité est un choix. Et tous ces choix, qu'ils soient conscients ou non, ils écrivent l'histoire. Écrire l'histoire, c'est une démarche très politique. Vous savez, on dit souvent cette fameuse expression qu'elle est écrite par les vainqueurs. Dans le cas des minorités sociales, l'histoire, elle est imposée par le regard de la majorité.
Et voilà, donc nous avons eu une petite introduction de la part de Lexi qui nous expliquait donc en fait qu'on pouvait analyser l'histoire à travers ce terme, mais que c'était difficile de parler vraiment de vraie transidentité quand la personne en face veut vraiment couper au débat. Et donc on voit qu'en France, cette idée de transidentité et de personne transgenre, elle a été beaucoup réfléchie au moment du protocole mis en place par le psychiatre Monsieur Breton, professeur Breton, le professeur Luton et le professeur Banzé. Donc ce protocole qu'ils ont édité en 1975, il est encore utilisé aujourd'hui pour encadrer les transitions de personnes trans et guider les médecins dans leur évaluation psychiatrique. Et on voit que c'est quand même assez ancien comme protocole et que en fait c'est encore utilisé par certaines personnes et par certaines personnes du corps médical, pardon. Donc ensuite, dans la chronologie, on continue à avancer dans les années. N'hésitez pas en plateau à réagir si vous avez quelque chose à ajouter ou à préciser.
Par rapport au protocole, certainement, c'est à noter que généralement, c'est un protocole qui est encore utilisé par les équipes protocolaires dans certains établissements hospitaliers. C'est absolument pas un protocole légal, dans le sens où il n'y a aucune... Il n'y a aucune légalité derrière ces protocoles, il n'y a rien qui le justifie, même à sa base, dans la mesure où à sa base c'était juste une forme de suggestion sur la manière de traiter les personnes trans. Et aujourd'hui c'est encore utilisé certainement dans les équipes protocolaires, mais pas forcément toutes. Et c'est encore un travail à faire aujourd'hui que de démanteler ce protocole-là, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que le psychiatre Breton, j'oublie son prénom, mais Breton justement a vu les nouvelles modalités de traitement pour les personnes trans dans les nouvelles équipes protocolaires qui avaient de nouvelles modalités beaucoup plus à jour, même si ça reste questionnable de notre point de vue, mais il a dit bah c'est bien, ça évolue.
c'est déjà un pas, on va dire. Donc on va poursuivre dans la chronologie. Donc en 1980, alors que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 1973, la transsexualité rejoint le DSM, donc le manuel de diagnostic et des statistiques des troubles mentaux. Qu'est-ce que cette évolution implique? Ça implique en fait qu'il va y avoir une prise en charge beaucoup plus médicalisée et beaucoup plus psychiatrique des personnes trans. Et cela jusque en fait en 1994, où cette DCM, justement cette classification, va évoluer un petit peu pour aller vers en fait plus qualifier la souffrance de ne pas appartenir à son genre comme une maladie mentale que vraiment la transidentité en elle-même. Ensuite, dans la chronologie, si vous avez rien à ajouter en plateau, on va aussi beaucoup parler des créations d'associations qui défendent et encadrent le droit des personnes trans. Donc en 1989, il y a la création de ACT UP Paris. en 1993 aussi, le PAST, donc l'association de prévention d'action de santé et de travail pour les transgenres, créée par Camille Cabral. Et en 2001, la création du GATT par Karine Boeuf, Maxime Zitouni, Tom Rochet et Vincent Essé. Et avec le GATT, l'invention donc des apps, qui sont des actions spectaculaires, qui sont militantes et qui sont organisées dans des endroits où les trans devraient être vus ou pourraient être beaucoup plus vus pour donner de la visibilité à cette communauté. La GATT porte aussi des revendications comme la déclassification du transsexualisme de la nosographie psychiatrique, donc ne plus considérer la transsexualité comme, et les personnes transgenres comme des personnes malades psychiatriquement, l'abrogation du protocole dont on parlait, le libre choix du médecin par un principe affirmé de l'aide à l'autodiagnostic, donc aider les médecins à faire que leurs patients aient un autodiagnostic sur leur genre plutôt que de faire que les médecins donnent leur diagnostic. Voilà ce genre de revendications dont on va parler plus tard, de toute façon en définissant les termes qui sont très importants pour parler de ce sujet et échanger sur ce sujet. Oui, je vous donne la parole si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus.
Alors, moi je ne connais pas beaucoup par rapport à la chronologie et l'histoire, surtout médicale, de traitement entre guillemets, mais juste d'accompagnement plutôt des personnes trans. Je pense que la problématique principale, c'est que ces personnes sont accompagnées par des personnes qui ne sont pas très, sensibilisées autour de ce sujet-là, qui ont pas mal de préjugés aussi, et qui, du coup, en fonction de leurs préjugés aussi, prennent la décision sur la vie de ces personnes-là qui savent mieux et eux que les personnes qui les accompagnent. Du coup, pour moi, ça, c'est la problématique principale d'accompagnement des personnes trans dans leur transition.
Pour ajouter justement à ça, il faut savoir que justement à l'époque, et encore un petit peu aujourd'hui, mais c'est plus légalement psychiatrisé, donc c'est plus une obligation légale, là où à une époque, l'approbation psychiatrique était vraiment nécessaire pour entamer n'importe quel... démarche, notamment pour la LD. Mais c'est vrai qu'à l'époque, justement, il fallait attendre l'approbation d'un psychiatre qui dise « D'accord, vous êtes bien une personne trans ». Et le mode de pensée, justement, à l'époque, c'était de dire « Bon, ces personnes-là sont malades, c'est des personnes dérangées, ce sont des personnes folles, mais faut quand même prendre soin d'elles, donc pour éviter qu'elles se fassent du mal ou qu'elles se suicident, eh bien on va leur donner ce qu'ils veulent ». Mais du coup, c'est après seulement beaucoup de temps, et surtout, c'était un peu dans cette perspective où il fallait pas que ça se voit. Du coup, il y avait des entraînements faits avec des psychiatres où on apprenait, par exemple, à une femme transgenre à bien s'asseoir comme une femme, à manger comme une femme, à se porter comme une femme, avant de dire « bon, bah, c'est bon, tu fais assez bien semblant d'être une femme, du coup, tu peux très bien avoir tes hormones maintenant, un petit peu, quoi ». Mais heureusement, maintenant, ça a relativement évolué. Mais c'est vrai que parfois, en tant que certains psychiatres, on peut se dire qu'il y a encore du travail.
Oui.
Vas-y, Ono, pas de soucis.
Mais du coup, c'est aussi ce truc de rôle de genre, mais surtout dans ce cadre binaire aussi de femmes et hommes. Et du coup, des rôles de genre, c'est-à-dire des comportements stéréotypés de genre de la culture ou de la société qu'on est attendu performer aussi, quoi. Et qu'il y a beaucoup de travail aussi là-dedans à faire pour comprendre qu'il n'y a pas en vrai des rôles qui viennent. Il n'y a pas des comportements précis aussi, des stéréotypés. Il y a des comportements stéréotypés, mais en vrai, en soi, il n'y a pas vraiment des comportements qui sont dus à ton genre. Mais juste, c'est des attentes sociales aussi et des constructions sociales aussi.
On y reviendra juste après, mais c'est exactement le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Essayer de mieux comprendre le genre, essayer de comprendre que les genres, entre guillemets, attendus par la société, peuvent être totalement remaniés, revus, et qu'on va se pencher là-dessus. C'est d'ailleurs... ce sur quoi on va enchaîner tout de suite, hein. On va parler donc de mots qui permettent de mieux encadrer, mieux comprendre la transidentité. Donc d'abord, le premier mot qui m'a marqué quand j'ai commencé mes recherches, c'est le mot autodétermination. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez commenter et apporter votre définition avant qu'on apporte quelque chose d'un peu plus institutionnel? Oui.
Oui, alors l'autodétermination, en fait, c'est tout simple. C'est que comme on ne peut pas matériellement décider ou déterminer pour quelqu'un son genre, donc c'est la personne elle-même, c'est la personne elle-même qui va se définir comme comment elle veut vivre et comment elle veut poursuivre son parcours.
Ok.
Ça, évidemment, les questions d'autodétermination, ça ne concerne pas que le genre, évidemment. En termes du droit international, il me semble que c'est dans les droits de l'homme ou le droit européen, je ne suis pas exactement sûr, mais le droit à l'autodétermination est noté et ça concerne la sexualité, le genre et énormément d'autres choses dont je ne me souviens pas parce que. Mais. Voilà, non, bref, pardon.
Oui. Pas de souci, on continue. Peut-être Renaud, tu avais un.
Oui, moi sur la question de l'autodétermination avec l'identité de genre, je pense que c'est lié aussi avec l'idée que. Bah, pour moi, c'est lié avec l'idée que l'identité de genre est un sentiment et un vécu personnel et intime de ce que ton genre est. Et du coup, toi en tant que personne, tu es complètement légitime de définir, de te déterminer, de te définir avec un genre que tu te sens. Et il y a tout un spectre de genre. Et pour moi, la transidentité, c'est tous ces spectres-là de genre qui ne rentrent pas dans le genre cis.
Ok. Et on peut en parler de ces genres qui, justement, ne rentrent pas dans le genre cis. On peut évoquer, par exemple, la non-binarité.
Oui, pour moi personnellement, du coup, c'est la non-binarité. Qu'est-ce que c'est la non-binarité pour moi? De mon vécu personnel, moi je parle que de mon vécu personnel, il y a plein de personnes qui le vivent, la non-binarité, dans mille manières. Et je pense que chaque manière de vivre la non-binarité, la transidentité, c'est valide. Et chaque manière aussi de l'exprimer, c'est valide. Et même les personnes qui sont en questionnement, qui ne savent pas encore trop, qui sont en train de faire leur recherche personnelle, tout est valide. N'ayez pas peur, votre manière de vivre ça, c'est complètement valide. Pour moi, la non-binarité, c'est le fait de ne pas me assigner dans les deux genres principaux binaires, homme ou femme. C'est-à-dire que je vis cette identité comme quelque chose de fluide. Du coup, je peux aller entre les deux. Mais aussi, dans quelques moments, je ne vais pas du tout ni dans l'un ni de l'autre, mais je suis dans un spectre fluide et que je pense que c'est complètement fun et ça me permet ma créativité aussi de vivre mon vécu aussi dans une manière libre parce que je le vois comme ça, je le conçois comme ça et voilà.
Et vous Sacha et Flo, comment vous percevez la non-binarité, votre non-binarité aussi, en général?
D'expérience, donc, nous, on va du coup accueillir assez souvent des... on va faire des programmes d'accueil, on va accueillir pas mal de personnes qui vont venir en parler. Des personnes non-binaires qui parlent de leur ressenti de la non-binarité vont l'expliquer de bien des manières. Généralement, ils vont aussi parler, ils vont utiliser plein de métaphores ou d'analogies assez différentes. Et une qui m'avait assez marqué, c'était lorsqu'une personne en fait, se questionnait sur son genre, qui était venue, qui du coup n'était pas exactement sûre de comment se définir. Il disait « je ne me sens pas complètement de l'autre côté, je ne me sens pas complètement femme », parce que c'était une personne assignée homme à la naissance. Et du coup, il y avait une personne dans la permanence qui avait utilisé cette analogie assez intéressante, qui avait dit « en fait, tu vois, c'est un peu comme un genre de grand spectre dans lequel tu peux être dehors, dedans, entre les deux. Et en fait, pour pouvoir savoir où tu es, tu expérimentes, tu essaies d'aller dans une zone, et si cette zone-là, tu te sens plus ou moins confortable dedans, tu essaies d'y rester, ou alors tu te déplaces vers des endroits où tu te sens plus confortable. Là, pour le coup, c'était vraiment... C'est pas tant une définition qu'une manière de dire à la personne comment est-ce qu'elle peut essayer de se chercher. C'était plus des conseils, vraiment, qu'une manière de définir cette non-binarité ou même le concept de genre dans son spectre. Mais c'était une méthode que j'avais trouvée assez... intuitive et intéressante, dans le sens où à côté, oui, c'est aussi une question beaucoup d'exploration et d'expérimentation.
Et de ne pas rester à un point ou à un autre, comprendre que c'est large.
Oui, après, il y a des gens qui se sentent très bien à rester dans un point, et c'est tout à fait légitime aussi. Mais là, pour le coup, c'était pour une personne qui se questionne énormément, donc généralement, on leur conseille d'essayer d'expérimenter, d'explorer.
Ok. Flo
Moi, je peux parler à titre personnel. Donc, moi, je considère que je n'ai pas de genre. Donc, je suis ce qu'on appelle une personne à genre. Et enfin, en tout cas, je m'appelle comme personne à genre. C'est comme ça que je me définis. J'ai connu des personnes qui se sont reconnues comme dans ce qu'on appelle un xénogenre. Donc, j'ai rencontré une personne qui se disait bête, comme un animal. Hein. Et ça peut arriver que d'autres personnes se définissent, par exemple, comme étoile, par exemple. Bien sûr, ces personnes sont bien conscientes de ne pas être des boules en fusion dans l'espace, mais c'est juste une façon d'exprimer leur ressenti, en fait.
Ok.
Et de percevoir le genre aussi, et de le vivre en tant que tel, de leur manière...
C'est vrai que ça peut paraître amusant ou intriguant, en tout cas, d'avoir des gens qui ont des xénogenres, mais c'est aussi une façon de s'affirmer, d'affirmer sa personne pour ces gens-là. Et justement, comme on disait Ono, d'exprimer leur créativité, parce que, en fait, notre vie nous sert aussi pour exprimer notre créativité en général. Et on a ce droit-là qui nous est offert, et autant en profiter, quoi. On peut continuer sur d'autres définitions. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, l'intersexualité, donc les personnes intersexes. Sacha, tu en as très bien parlé, donc j'aimerais bien que tu t'introduises le sujet et puis qu'on ait une petite discussion là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé, alors qu'il concerne beaucoup de personnes finalement.
Oui, alors déjà pour donner une échelle, les personnes intersexes, ça concerne 1% de la population. À peu près. Et pour le définir assez inclusivement, une personne intersexe, c'est une personne qui n'a pas une sexuation dyadique lors de son développement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que son corps à la puberté, dû à la biologie initiale, qui peut être de différents types. Ça peut être des chromosomes XXY, ça peut être une hypertrophie du clitoris liée à des dérèglements hormonaux, etc. Il y a vraiment énormément de manières de voir... Il y a vraiment énormément de manières qu'une personne soit intersexe. À la puberté, généralement, ça se développe d'une manière auquel on ne s'y attend pas. Ou parfois, ça se développe de manière qu'on s'y attend, mais il y a des dérèglements qui font que ça reste différent de ce qu'on va considérer être la norme de développement d'une personne. À savoir que, du coup, il y a énormément de violences faites à l'égard de ces personnes, notamment à la naissance. À savoir que à une époque et pas si lointaine, parfois quand il était sujet de voir des organes génitaux externes qui laissaient à confusion, en tout cas l'ambiguïté quant à la nature homme ou femme de l'enfant, dans cette conception excessivement binaire, il faut absolument choisir, on ne peut pas être les deux. Du coup, c'était soit au choix des parents, soit au choix un peu au doigt mouillé du chirurgien de choisir, bon, alors est-ce qu'on ferme la vulve ou est-ce qu'on enlève le pénis. Et c'est des choses excessivement violentes. Et encore aujourd'hui, il y a encore des cas de personnes qui, à 20 ans, se rendent compte que quand ils étaient très jeunes, ils ont reçu une opération comme ça. Et ils ne l'ont appris qu'à leurs 20 ans parce qu'il y a eu des dérèglements, de problèmes de santé. Enfin, en tout cas, pas des problèmes de santé en vérité, hein, plus des choses inattendues. Parce qu'on leur dit, tu es complètement un homme. Et après, ils voient qu'ils ont des traits féminins ou des choses qui se développent de manière un peu étrange. Enfin, voilà. Et du coup, c'est des personnes qui reçoivent énormément de violence. Même il faut savoir qu'à une époque, ne pas faire de chirurgie sur un enfant intersexe pour le rendre normal, entre guillemets, c'était vu comme une violence. C'est-à-dire que si un parent refusait de faire une chirurgie sur son enfant, c'était vu comme de la maltraitance à un certain moment dans l'histoire. Aujourd'hui, ça a évolué. A priori, légalement, il y a eu des changements, mais à quel point ça va être appliqué, ça, je ne peux vraiment pas vous le dire. C'est dans 20 ans, on saura si vraiment il y a eu il y a plus ce genre de maltraitance. Parce que dans le domaine médical et même dans énormément de domaines, la loi, elle a beau dire un truc, généralement, ça prend beaucoup plus de temps pour changer. Donc
on rappelle que les personnes intersexes, ça concerne quand même 1% de la population et c'est des violences subies très tôt dans l'enfance, enfin dès la naissance en fait. Et le 26 octobre se déroule la journée internationale de visibilité intersexe pour donner un peu plus de lumière à ces personnes-là. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette définition, apporter quelque chose sur ce débat, Ono et Flo?
Moi j'aimerais bien dire aussi du coup de clarifier que c'est important de donner de la visibilité à ces personnes-là et qu'on peut être intersexe, du coup, si j'ai bien compris, on peut être intersexe mais aussi être femme, assignée femme dans son genre. Et non, pas assignée femme, mais se définir femme, intersexe et homme, intersexe et non-binaire, intersexe. Du coup, c'est que l'intersexe, c'est aussi par rapport au...
En fait, l'intersexe, c'est juste un rapport au corps. À la naissance, nécessairement, on est dans une société où on nous assigne nécessairement à homme ou femme. Et après, généralement, en tant qu'intersexe, y a des personnes intersexes qui ne se rencontrent jamais dans leur vie. Il n'y a jamais rien qui peut leur permettre de le dire, donc ils ne se rencontrent jamais. Et après, la question de leur genre, ça va juste dépendre de comment est-ce qu'ils se sentent et de si ça diffère de ce qu'on leur a assigné à la naissance.
Oui, du coup, c'est bien de dire aussi que voilà, c'est aussi la question d'intersexe, c'est aussi une question à part et que ça vient pas forcément directement, indirectement ça vient parce que du coup vu qu'il y a ce concept aussi de genre avec le sexe assigné à la naissance, ça vient aussi s'ajouter aussi dans ces questions-là et c'est aussi pour ça qu'on parle parce que...
Bien, dans tous les cas en fait les violences faites aux intersexes, elles trouvent leur origine de manière très similaire aux violences faites aux personnes transgenres, dans la mesure où c'est toujours une violence commise vis-à-vis d'un affront aux normes de genre. Dans la norme de genre dominante, elle va rejeter de la même manière la différence que... La violation que vont faire les intersexes à cette norme, cette violence, elle vient de la norme de genre, de la même manière que la violence que les personnes trans subissent, elle vient aussi de la norme de genre.
Oui.
Donc à ce niveau-là, c'est pour ça que généralement la lutte intersexe, c'est aussi la nôtre.
Oui.
Et de la même manière que la lutte des personnes homosexuelles, bisexuelles, lesbiennes, parce que ces personnes-là, si elles se font, si elles subissent de l'homophobie ou de la lesbophobie ou de la biphobie, c'est bien parce qu'il y a une norme de genre qui vient leur dire ce que vous faites, c'est pas normal.
Oui.
Et ça nous amène du coup très bien à la prochaine définition qui est la dysphorie de genre. Donc du coup, c'est ce dont on parle et c'est vrai que c'est un mot un peu scientifique pour parler de ce dont tu es en train de parler, donc ça me semblait important de l'évoquer. Donc en plus, on parlait tout à l'heure de la DCM, c'est le terme qu'utilise la DCM pour classifier la maladie mentale impliquée par, je mets des grands guillemets, impliquée par la transsexualité. Donc elle parle de dysphorie de genre. Donc Sacha, tu connais ce terme, tu en as entendu parler?
Oui, absolument. C'est un terme évidemment qui nous a été utile pour avancer en termes de nos droits, dans le sens où le fait de pouvoir mettre un mot là-dessus, ça a permis d'argumenter avec la communauté des médecins pour dire oui, il faut prendre soin des personnes transgenres parce que, vous voyez, il y a ce mal-être là. Mais concrètement, de notre point de vue, ça ne veut pas dire grand-chose, dans le sens où la dysphorie de genre, c'est une dysphorie comme une autre, parce qu'il y a très bien des hommes qui se sentent très mal à propos de la taille de leur pénis, qui vont parfois vouloir faire des opérations pour agrandir leur pénis. C'est de la dysphorie. Est-ce qu'on peut parler de dysphorie de genre si on veut? Parce que techniquement, c'est une dysphorie liée de... On se dit, oh, mon corps n'est pas en lien avec le genre auquel je m'attribue, et du coup, bah, voilà, j'ai pas une assez grosse bite pour être un homme. Voilà, ça, c'est à peu près la même chose au final. Et dans les faits, réduire la transidentité à la dysphorie de genre, peut-être pour expliquer vite fait ce que c'est la dysphorie de genre, parce que je n'ai pas vraiment dit ce que c'était, mais oui. c'est une manière de définir, de dire c'est quand une personne ne se sent que son corps n'est pas en accordance avec le genre auquel il s'attribue. Voilà, c'est basiquement ça, c'est un mal-être lié à ça, et donc c'est généralement ce qu'on va utiliser en termes psychiatriques pour dire cette personne a besoin de soins parce que, en tout cas, c'est comme ça qu'on justifiait la prise en charge des personnes trans jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça, mais c'est toujours ça. Mais donc, voilà, et la chose étant que réduire la transidentité à la dysphorie de genre, certes, ça peut aider pour se justifier face à des médecins qui sont très anciens, mais dans les faits, c'est pas très inclusif de toutes les expériences de transidentité, parce qu'il y a des personnes transgenres qui ne ressentent pas de dysphorie de genre.
C'est mon cas.
Voilà. Par exemple. Et il y a plein d'exemples, donc on peut pas réduire à ça. Après, c'est important d'en parler aussi, dans le sens où c'est vrai que c'est un mal-être qui existe, qu'on peut déterminer, mais c'est absolument pas une manière de définir une personne transgenre. Ce serait absurde, dans le sens où même les personnes cis ressentent de la dysphorie. C'est juste un mal-être lié à la perception de son corps. Et enfin, voilà. Du coup, c'est pour ça que je tiens à dire qu'on ne peut pas réduire la transidentité à ça. Voilà,
C'est très important. Enfin, je pense que c'est très important de mettre un point là-dessus et d'expliquer aussi qu'il y a des classifications qui sont institutionnelles, mais il y a aussi des gens qui ont des vies, des parcours qui sont particuliers, qui sont personnels et qui sont les leurs, en fait, et qu'on ne peut pas résumer à une grande classification de maladies mentales ou de maladies en général. Pour changer de définition, et on va partir sur les deux dernières définitions, du coup, je pensais quand même important de préciser ce qu'était l'outing. Qu'est-ce que c'est l'outing? Outer quelqu'un pour une personne trans, qu'est-ce que c'est? Est-ce que...
Eh ben, l'outing, alors ça peut être plusieurs choses. Alors déjà, il faut partir de l'expression coming out, donc c'est se déclarer auprès de... ou de personnes qui nous sont proches ou de manière publique, de se déclarer. Alors ça peut toucher à l'orientation sexuelle ou romantique, ou à l'identité. Et outer une personne, du coup, c'est... je me trompe peut-être, si quelqu'un a une meilleure définition que moi, merci de me corriger. C'est de dire publiquement, d'annoncer publiquement qu'une personne est d'un genre ou d'une orientation ou autre chose sans son consentement et sans lui avoir demandé son avis, quoi. Ça peut être un peu perçu de manière offensive.
Tout à fait. On peut ajouter à cette définition.
Oui, généralement, ça va... Pour donner des cas précis... parce que c'est exactement la définition, mais pour donner des cas précis, ça peut être par exemple au travail notamment. Parfois ça arrive que des personnes trans aient un très bon passing et que du coup ils arrivent au travail, tout le monde les prend pour le genre auquel ils s'attribuent.
Passing, on va préciser passing
Passing, pardon. C'est c'est à quel point une personne ressemble selon les normes de genre au genre auquel il s'attribue. Voilà. Je vais le définir comme ça. Si ça convient à tout le monde,
Très convenable.
Voilà. Donc parfois il y a des personnes qui ont un beau passing et qui sont pris par toutes les personnes cis et par tout leur entourage comme le genre qu'elles s'attribuent. Et du coup ensuite au travail, y a une vieille amie de cette personne qui va arriver, qui va révéler à tout le monde qu'en fait avant c'était un meuf ou que avant c'était un mec, tu vois. Et à partir de là en fait ça m'a créé un grand malaise et ça...
Ça peut mettre la personne en grande difficulté, oui.
Oui, voilà.
C'est super violent, oui. Du coup, d'aller toucher à ce point-là aussi, juste parce que la personne a des problèmes avec soi-même qu'il ne peut pas gérer, et du coup, pointe sous le doigt des personnes qui font leur life et qui...
Et qu'à la limite, on n'aurait rien eu à cirer avant. Qui auraient très bien vécu avec la personne, ils auraient très bien travaillé avec la personne, il n'y aurait jamais eu de problème. Et là, ça crée généralement des problèmes. Le fait de parler d'un coup à cette personne est trans, généralement, ça crée un espèce de malaise parce qu'évidemment.
Et puis, ça en revient à. Je ne sais pas si le terme est bon, mais déterrer le passé de quelqu'un. Quoi. C'est comme si on racontait une histoire d'enfance qu'on avait eue avec quelqu'un. Ah, tiens, X personne, en fait, quand on était jeune, il tuait des oiseaux. Ah, on ne va pas parler à la personne de la même manière. En fait, on ne révèle pas le passé de quelqu'un comme ça aussi. Ouais, voilà.
Oui,
c'était un parallèle, désolé.
Oui, mais pas de souci. Mais qui va avec rappeler les dead names des personnes trans aussi.
Oui.
C'est-à-dire que la personne a choisi un nom à soi-même et qui du coup c'est son nom et du coup à partir du moment que la personne dit moi je m'appelle comme ça, en vrai la chose normale c'est aussi d'appeler la personne par ce nom là et pas d'essayer de chercher comment tu t'appelais avant, est-ce que c'est normal que ce nom il me semble pas comme la norme des noms et tout ça. Et du coup voilà quoi, arrêtez de faire ça.
Oui, arrêtez de donner ou de chercher même les dead names des personnes qui ont changé de nom tout simplement en fait. Voilà. C'est important aussi, ça fait partie de toute ce volet un peu prévention qui faisait partie de la définition d'outing. En fait, c'est attention aux termes qu'on utilise, attention aussi à ne pas révéler la vie privée des personnes. Et puis, on peut étendre ça à d'autres choses. On peut étendre ça à la religion, on peut étendre ça au sexe, on peut étendre ça à la vie personnelle. Voilà.
En cas, moi, je peux donner un exemple assez personnel. C'est que je suis avec ma mère, elle ne me genre ou ne me... ne me nomme jamais correctement, peu importe. Mais du coup, parfois, on va en magasin ou on est dans un restaurant, la personne dit bonjour, mesdames, quand je suis avec ma mère, et ma mère s'empresse de absolument corriger la personne. J'ai eu du mal à lui expliquer qu'en fait, pour peu que la personne soit très peu réceptive, je risque d'avoir des problèmes à ce qu'elle fasse ça. Parce que. que. Tout simplement. Au-delà du manque de respect, mais ça je m'attends pas à ce qu'elle comprenne, il y a aussi une question de sécurité, c'est que moi derrière, si après je sors du restaurant sans elle et que je me fais tabasser, ça risque de me mettre plus... c'est pas juste une question de malaise, c'est aussi une question de...
mal-être.
Je me sens moins en sécurité quand elle fait ça en fait. Ouais. Mais bon.
Donc attention aussi au mégenrage, hein, là, tu as évoqué ce terme, on n'a pas parlé, on ne l'a pas évoqué, mais mégenrer quelqu'un, c'est parler de cette personne selon un pronom qu'on a défini nous-mêmes, au lieu de faire attention à ce que la personne aimerait qu'on donne comme pronom. Voilà.
Oui, c'est, et que c'est une violence, du coup, que les personnes trans et non conformes en genre sont souvent en vrai des victimes, si je peux dire comme ça. Bah oui, c'est des victimes en vrai d'une violence subie quotidiennement, d'une violence qui vient depuis longtemps, qui est exercée sur ces personnes-là depuis longtemps, et qu'il faut qu'on fasse attention. C'est pas grave si on met genre et qu'on connaît pas les sujets et que c'est vraiment complètement nouveau. C'est pas grave, c'est grave en soi, mais en vrai, on peut apprendre aussi à connaître. Peut-être pas harceler la personne directement, lui dire « oui, mais explique-moi, c'est quoi la transidentité ». On peut se faire des recherches nous-mêmes. Il y a plein de podcasts qui parlent sur ça, il y a plein de livres, maintenant, de plus en plus, il y a des films aussi. Il y a aussi les personnes qu'on connaît, des personnes proches, peut-être par exemple des personnes trans aussi, qui sont un peu plus informées, qu'on peut demander. Super. Et qu'il faut aussi... Il faut aussi faire attention pour ne pas harceler la personne de t'expliquer de son vécu et de toi de prendre en tant qu'allié, en tant que personne alliée, de prendre en charge cette responsabilité de t'informer et de...
Donc,
de construire, oui, de construire des, de déconstruire ce qu'on a appris et de construire des nouvelles idées, des approches.
Dans ce cadre, si vous voulez fouiller un peu plus le sujet après l'émission ou même si vous voulez regarder pendant, il y a une brochure de l'association Transat qui s'appelle Comprendre les transidentités, qui est assez intéressante, assez exhaustive, je trouve, par rapport à ce problème, même si, bien sûr, le problème la question évolue en permanence, donc bien sûr il y a des choses qui vont manquer, etc., mais ça permet déjà d'avoir un bon panorama si vous voulez aller. Donc comprendre les transidentités, vous cherchez comprendre les transidentités sur Google et c'est le premier résultat, et ça permet déjà d'avoir des informations sans, comme tu disais Ono, aller demander directement à la personne et alors ta vie privée, comment ça se passe, etc.
Oui.
Voilà.
Avec des questions intrusives. Mais moi, je voulais ajouter aussi un truc.
Oui.
De ces personnes, du coup, qui exercent cette violence, bah, c'est souvent des gens qui, en vrai, qui agissent dans une telle manière parce qu'ils nous perçoivent comme une menace plutôt qu'une invitation à la diversité, à la diversité des êtres, de notre manière d'être, de vivre la vie et l'identité et tous nos vécus. Et dans cette réaction, de ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, il ne s'agit pas vraiment de nous, mais il s'agit de... Et le même, quoi. C'est vraiment un truc de percevoir soi-même et essayer de se conformer aux normes et aussi de harceler et d'amener la honte, amener la peur envers les autres personnes qui essayent, du coup, de se libérer de ça et qui essayent d'être plus proche à son authenticité et plus proche à ce que ces personnes sont pour de vrai, quoi.
Oui, de surcroît généralement, c'est ce qu'on peut remarquer surtout avec les moi c'est une expérience que je connais, c'est pour ça que je parle de ça spécifiquement, après il y a énormément d'autres expériences dont on peut parler, mais celle des hommes qui en fait souvent ont l'impression de se sentir insultés dans leur masculinité par ton existence en tant que femme trans, ils ont l'impression de dire, ils ont l'impression de se sentir menacés comme si d'un coup... leur virilité était remise en question, et ça arrive notamment quand ils viennent pour te draguer et puis qu'ensuite ils se rendent compte d'une manière ou d'une autre que tu es une personne trans et que là ils sont vraiment, je suis tombé, mon dieu non, j'étais attiré par un homme, mais quelle horreur, cette personne a un pénis, oh non,
oui.
C'est assez ridicule. Je suis sûr qu'il y a des mécanismes similaires pour les personnes trans masques, bien que je ne les ai pas vécu, mais je crois... Non, je dois avoir des exemples, si vous voulez.
Mais moi, j'ai une anecdote aussi à raconter là-dessus. Bah, cet été, je suis retournée en Albanie pour voir ma famille. Et du coup, il y a mon oncle qui est venu. Et dans la discussion, de manière dont... Déjà, de ma performance de genre, j'ai pas beaucoup... Bah, j'essaie d'être neutre de ma manière et parce que c'est comme ça que je me sens mieux. Et du coup, mon oncle qui vient vers moi et qui essaye de me mettre en deux filles avec lui physiquement et qui me dit, bah, vas-y, toi, t'es un mec ou pas? Et je lui dis, bah, en vrai, je suis pas un mec, tu vois. Alors, toi, t'es pas... Bah, dis-moi ce que t'es. Je dis, bah, en vrai, je suis ni un mec ni un meuf. Je suis moi-même. Arrête de me harceler. Ça suffit, quoi. J'ai pas besoin de prouver si jamais je vais pas vers ton idée de c'est quoi être une meuf ou c'est quoi être un mec. T'as pas à venir me harceler, me attaquer physiquement pour prouver que je suis quelque chose, quoi. Donc,
rien à prouver. Comme tu disais au début, tout est valide, en fait, à partir du moment où c'est ce qu'on ressent. À partir de ce moment-là, c'est valide. Et on peut entamer le parcours de transition, en fait. C'est ça l'important. Donc, parcours de transition, c'est quand on se sent justement dans une dysphorie de genre ou quand on se sent pas bien dans son genre. Donc, aller vers d'autres choses, justement, comme on disait tout à l'heure, explorer ce spectre du genre qui peut être vraiment beaucoup plus large que juste la féminité et la masculinité, quoi. Donc,
après,
voilà.
Juste sur ça, faut noter qu'il y a pas mal de personnes qui ont un parcours de transition malgré le fait qu'ils n'ont pas de dysphorie de genre, du moins qu'ils ne pensent pas en ressentir ou qu'ils n'évoquent pas en ressentir ou qu'ils n'en ont juste pas, finalement, parce que savoir, ça dépend juste de ce qu'ils en disent. Donc, s'ils disent qu'ils sentent rien, ils sentent rien. Hein. Et donc, en fait, les parcours de transition, il faut aussi savoir que c'est toujours comment dire. C'est vraiment pas lié à une question de dysphorie de genre, dans le sens où, par exemple, nous on a eu le cas d'une personne qui était un homme cis Qui ne se sentait absolument pas femme, de ce que j'ai compris, il me l'a raconté, je n'ai pas rencontré la personne, mais apparemment elle ne se sentait absolument pas femme, mais malgré tout elle était venue pour nous voir et nous demander comment est-ce qu'il pouvait avoir accès à un chirurgien pour faire une vaginoplastie. Mais ce n'était à aucun moment, il ne se sentait femme, c'était, ça restait un, il se définissait clairement comme un homme.
En quoi il y a des hommes avec des vagins et des...
Oui, voilà. Et là...
voilà. C'est la preuve aussi qu'il y a des hommes qui...
Et c'est ça. Et finalement, il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Parce que idéalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est que n'importe qui ait accès à n'importe quelle chirurgie pour s'affirmer dans son corps, dans la manière qu'il souhaite. Et après, il faut aussi éviter de voir la transition de genre ou les transitions comme le fait d'aller d'un point A à un point B, dans le sens où généralement c'est plus une espèce de parcours du combattant où
on utilise le terme parcours, c'est un peu bizarre parce que oui, quand on parcourt, on essaie d'aller d'un point A à un point B, mais l'idée c'est plus une exploration. Ouais,
ouais, c'est ça, et généralement, pas forcément tout le temps, mais il y a souvent des cas où les personnes changent d'avis ou qui veulent... Moi par exemple au début quand j'ai commencé je voulais absolument pas faire de chirurgie, dès que j'ai commencé les hormones je me suis dit il y en a peut-être 2-3 qui m'intéresseraient, enfin bref, et pour certaines autres personnes c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'absolument ils veulent faire des chirurgies dès qu'ils commencent, puis ensuite dès qu'ils commencent les hormones ils se sentent mieux dans leur corps et ils font en fait je pense pas en avoir besoin, donc c'est vraiment pas point A, point B. Après ça va dépendre aussi des perceptions, c'est-à-dire que dans certains pays, alors moi on m'avait expliqué ça, je n'ai pas vraiment vérifié, c'est juste que c'est une camarade iranienne qui m'avait expliqué ça en détail, mais qui m'avait dit qu'en Iran notamment on avait parfaitement le droit de transitionner, c'est juste que le parcours de transition était excessivement régulé et qu'on n'avait pas tellement le choix sur ce qu'on pouvait faire ou non. C'est-à-dire qu'une femme trans devait faire ces chirurgies-là, et il fallait absolument pas que ça se voit que c'est une femme trans, il fallait vraiment qu'elle soit parfaitement... aux normes, et que voilà, elle n'avait pas le droit évidemment d'aimer les femmes, il fallait absolument qu'elle aime les hommes, et inversement pour les hommes trans c'était le chemin parfait. Et d'ailleurs en Iran ils font très bien les métallioïdoplasties apparemment, même s'ils les font un peu trop larges apparemment, mais bon.
On peut aussi préciser que transition n'est pas forcément égal à opération, il peut y en avoir, il peut ne pas y en avoir, et que la transition est tout à fait valide, qu'il y en ait ou pas, qu'il y ait un traitement ou pas, la personne décide de son parcours aussi.
Oui, voilà, et c'est évidemment, parce qu'en plus nous on l'avait déjà reproché, c'est vrai, que parfois on parle beaucoup de questions médicales, alors qu'il y a certaines personnes qui ne veulent absolument pas faire de parcours médicaux, ni hormonal, ni chirurgie, ni quoi que ce soit, et en fait c'est un peu oppressant parce que ça leur fout un peu une pression. Et ça c'est vrai qu'il faut essayer de faire gaffe aussi, ça c'est de notre côté, on essaie de faire attention quand même, mais c'est vrai qu'on nous a déjà critiqué parce que nécessairement parfois, vu que c'est une demande très récurrente, on en parle beaucoup. Et beaucoup de personnes vont donc prendre ça comme une manière de se mettre la pression quand on parle beaucoup du domaine médical. Mais c'est vrai que voilà, transition, ça veut juste dire être dans le genre auquel on se définit par n'importe quel moyen d'affirmation. Et c'est ni forcément médical, ça peut vraiment juste être social et dire à ses amis, voilà, maintenant je suis ça. Et respectez-moi. Ça peut vraiment juste être ça la transition et rien d'autre. Hein.
Oui, on précise donc encore une fois, dans les différentes étapes de l'acceptation de son genre, on a une étape d'acceptation par soi-même, on essaie de se comprendre soi-même, ensuite on arrive à s'ouvrir aux autres sur cette question, et en fait toutes ces étapes elles sont différentes chez toutes les personnes, et il faut respecter le parcours de chacun par rapport à tout ça et par rapport à l'envie d'aller vers une chose ou une autre. Et je trouvais aussi intéressant, juste pour finir sur la définition, ensuite on partira sur vos témoignages et vos expériences, vos petites anecdotes aussi si vous en avez. Mais ne pas associer forcément la transidentité et la sexualité, et ne pas tout de suite rentrer dans ces sujets quand une personne transphobe est face à vous. Quand une personne trans est face à vous, ne pas rentrer directement dans la sexualité, voilà, comme ça je l'ai été un petit peu. Et donc, désolé, j'aurais pas dû
pas de soucis.
Partir sur cette définition du tout. On va donc partir sur plutôt votre vécu, parce que c'est ça qui est important dans Violet. On donne la parole aux invités, à leur vécu, à leurs anecdotes, à ce qu'ils veulent dire. Et voilà, c'est à vous. N'hésitez pas. En tout cas, alors, pas trop longtemps.
Bah, moi, je voulais juste ajouter un dernier truc sur la transition médicale. Qu'en vrai, il faut aussi normaliser le fait qu'il peut avoir une transition médicale, mais aussi il peut avoir une détransition, du coup, ce qui est complètement normal et ce qui est encore pour valider, pour légitimer tous les choix de personnes de leur manière.
Oui, c'est important aussi de comprendre qu'il peut y avoir des hésitations, des retours. La décision à tout moment est valide. On en parlait tout à l'heure, une décision prise à un moment peut être différente d'une décision prise plus tard. Les deux seront valides au moment où elles ont été prises. Quoi.
C'est ça.
Oui.
J'ai rien à rajouter sur la question, à part que oui, le principe d'autodétermination, c'est aussi que très souvent, on est hésitant sur ce qu'on est, on n'est pas forcément sûr, et que comme tu dis, en fait, peu importe le moment auquel on se prétend, auquel on dit je suis ci ou je suis ça, à un moment où on le dit, c'est légitime totalement. Mais voilà, là, j'ajoute rien de vraiment pertinent à la conversation.
Non, mais c'est bien. C'est bien aussi de rappeler les bases et de souvent remâcher les mots pour que ça rentre bien dans les cerveaux et qu'à un moment donné, on puisse se dire oui, c'est l'éducation, quoi. C'est comme ça.
Après, on n'a pas tellement défini ce que c'est qu'une personne transgenre.
Soit... Oui, en fait, c'est vrai qu'on a fait beaucoup le tour, mais quelque part, on n'a pas abordé le sujet en précision. Oui, je peux vous demander pour vous. Allez-y. Vous voulez que je...
Moi, j'ai dit avant que pour moi, du coup, les personnes transgenres sont toutes les personnes qui ont un genre différent, autre, qui rentrent du coup dans tous les spectres, autre que le genre cis. Du coup, si c'est avoir le genre assigné à la naissance et garder, se sentir bien avec ce genre-là.
Voilà, c'est une définition assez claire.
Ok, donc du coup, on va essayer de définir encore mieux ce terme et de parler encore mieux de ce terme avec...
Après, on peut même essayer de définir qu'est-ce que c'est que le genre en soi.
Oui.
Mais là, on va partir dans... Parce qu'en plus,
je pense qu'il faudrait une nouvelle émission d'une heure.
Ouais, c'est ça. Et c'est ça, est-ce qu'on a encore une heure devant? Parce qu'en plus, il y a plein de définitions différentes. On peut parler en termes sociologiques, on peut parler en termes militants, parce qu'il y a énormément de manières d'en parler qui divergent un peu sur certains
points. D'où l'importance de s'informer sur le sujet, d'aller chercher toutes les sources, et puis de ne pas se limiter à un seul discours. Je pense que c'est aussi ce qu'on veut véhiculer aujourd'hui. Ne vous limitez pas à juste un discours, essayez d'aller chercher un peu plus, essayez d'aller fouiller, essayez d'aller regarder qu'est-ce que d'autres personnes en disent, qu'est-ce que... Voilà.
Mais après, dans tous les cas, pour nous, le plus important, ça va rester de questionner justement la norme de genre en général. Parce que même si on se sent très bien dans son corps, c'est important de questionner, même si on se sent très bien dans son genre, pardon, ou dans son corps aussi, ça reste important de questionner justement tout ce qu'on nous inculque dès la naissance. Ça reste très important de venir dire, de se dire, ok, d'accord, moi j'aime le bleu, j'aime les voitures, j'aime les gros camions, j'aime faire le foot, j'aime les femmes, blablabla. Voilà, je peux être une personne complètement normée, mais c'est important de se demander pourquoi. Et est-ce que vraiment c'est quelque chose d'ordre naturel, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est propre à nous? Parce que c'est vrai que le gros problème de la norme de genre, c'est qu'on la naturalise énormément. On vient de dire c'est comme ça. Parfois, on vient essayer de la légitimer en disant oui, la testostérone, ça rend plus combatif, blablabla. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet de la testostérone sur le comportement, mais certaines fois, ça devient ridicule la manière dont on en parle. Voilà, donc dans tous les cas, même si on ne se pose aucune question sur son propre genre à soi, ça reste important de se poser des questions sur le genre en général. De se dire, ok, d'accord, est-ce que ce que je le fais juste parce que j'ai un pénis.
Et puis cette définition du genre, elle est très dépendante de notre culture aussi.
Oui.
On voit que dans d'autres pays, ça peut être différent. Ono, tout à l'heure, tu me parlais... Oui. En Albanie, de comment ça pouvait être perçu. Vas-y, je te laisse la parole avant de faire encore un pas de côté, parce que je commence à fatiguer. Il est 22h30 bientôt.
Non, mais d'accord. Moi, du coup, ça fait pas beaucoup de temps que je me définisse comme la nouvelle génération de Bourneige. Du coup, Bournesh, c'est une figure de troisième genre qui est en Albanie. Et ça vient d'une tradition ancienne, ancestrale, ça fait maintenant 600 ans. Et Bournesh, en vrai, ça vient de bur, que ça veut dire homme. C'est en albanais, ça. Et puis, avec le suffixe féminin, nesh. Et du coup, ça, c'est l'histoire, c'est une tradition qui provient d'un kanoun. Le kanoun, c'était une sorte de code pénal élaboré sous la domination ottomane. Et ce kanoun dispose que les familles doivent être patrilinéaires, c'est-à-dire que les héritages passés par la lignée sont passés par la lignée masculine, et patrilocale, c'est-à-dire qu'une femme mariée ou une personne assignée femme à la naissance mariée rejoint la famille d'époux. Et du coup, selon le canon, les femmes ont peu de droits. Elles ne peuvent pas ni voter, ni porter de montre, ni fumer, ni acheter des terres, tous les droits de base. Et c'est pas que c'est les droits de base, mais tous les droits aussi de base qu'on peut avoir, quoi. Et les femmes, en fait, sont considérées comme une propriété familiale. Du coup, c'est une tradition, c'est un canon qui vient d'après une tradition patriarcale très forte. Et une bourneige, du coup, c'est des femmes qui choisissent par un serment. Souvent, en français, sont connues comme les vierges sous serment. Et c'est des femmes ou des personnes nées femmes à la naissance qui, sous serment, du coup, font un serment devant un village ou d'un tribu, devant 12 anciens. Et elles s'engagent à demeurer célibataires et elles sont autorisées de vivre comme un homme. Du coup, briser le serment est puni par la mort. Et dans les cas rencontrés à la fin du XXe siècle, plus que le serment, c'est la masculinisation des signes extérieurs de genre. Du coup, c'est les bourneiges sont des personnes aussi. Souvent, c'est dans des familles où il n'y a que des filles. Et vu que dans cette époque-là, il y a eu beaucoup de trucs de vendetta, du coup, des hommes qui se tuent entre des familles. Du coup, il faut avoir le sang des hommes. Et du coup, il y a beaucoup de familles qui ont plein de filles et du coup ces filles elles deviennent bourneiges pour devenir un peu chef de famille et pour avoir les mêmes droits que les hommes de la société. Mais en vrai, il y a beaucoup de personnes, j'ai vu sur Facebook, il y a des personnes qui disent « Ouah, mais c'est horrible, c'est quoi ça, on est au 21e siècle et les femmes, elles doivent pas être obligées à ce point-là de se transformer en homme pour avoir les mêmes droits. Ici, on est dans un pays libre, blablabla. » Mais en vrai, il ne faut pas oublier du contexte historique d'où ça vient. Et aussi, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que devenir un homme dans les yeux de la société, mais c'est des personnes aussi qui, en vrai, il peut avoir des questions de transidentité et qu'on ne sait pas... Il n'y a pas beaucoup de recherches là-dedans, mais pour moi, c'est vraiment un troisième genre, une manière d'être... entre les deux, mais à la fois de jouer avec les codes des deux, mais à la fois avec aucun code, mais être reconnu de la société aussi, c'est-à-dire qu'il peut avoir parmi ces personnes-là aussi, il peut avoir bien que juste des femmes masculinisées, qui sont que des femmes, et il peut avoir des hommes aussi qui sont des hommes trans, et il peut avoir tout un spectre aussi des personnes qui sont des personnes non-binaires, à genre, plein de choses, quoi. Mais du coup, pour moi, c'était important de nommer ça, parce que c'est une communauté de personnes que maintenant, c'est en voie de disparition. Moi, je me revendique comme bourneige par rapport à ça, parce que je trouve que c'est une force aussi incroyable de faire résistance de ce système qui était très opprimant aux femmes et aux personnes assignées femmes à la naissance, du coup. Et j'aimerais bien amener ce sujet encore plus loin. J'ai trouvé qu'il y a aussi un truc pareil en Afghanistan qui s'appelle Bachapoche. Et du coup, c'est pareil, des personnes assignées femmes à la naissance, des femmes qui, du coup, deviennent des hommes ou de... deviennent des hommes de la société, quoi. Ils sont reconnus comme des hommes pour avoir leurs droits et pour être libres, quoi. Mais du coup, c'est pas une question de victimisation comme maintenant, je le voyais sur les commentaires de Facebook et tout ça, genre de « Oh, voilà, c'est des victimes, les pauvres femmes et tout ça ». C'est aussi un choix des personnes, en vrai, qui choisissent d'amener leur vie de cette manière-là et que y a, d'une manière aussi, c'est leur manière d'être libre, d'être plus en accord avec elles-mêmes, quoi.
Et en fait, ça nous aide à comprendre et à montrer des exemples du fait que le genre est amené par les normes et la société, et que quelque part, en fait, on peut se placer différemment selon si ces normes évoluent, se modifient, etc. Ouais.
Oui.
C'est un très très bon exemple, et un exemple d'histoire actuelle, d'histoire contemporaine de ce troisième genre, ou de ce genre en tout cas qui sort de cette classification assez binaire qu'on a, qu'on a aujourd'hui. Nous avons parlé pendant une heure, mesdames et messieurs, et autres genres, de ce sujet fascinant qu'est la transidentité et la question de genre. Est-ce que vous avez un mot à ajouter pour la fin, pour souhaiter une bonne soirée à nos auditeurs? Ensuite, on pourra se quitter.
Moi, j'aimerais sûrement parler, on en avait parlé un petit peu avant, j'ai assez rapidement TIDOR, c'est le Trans Day of Remembrance.
Exactement,
allons-y. Ça se passe le 20 novembre et c'est un jour international où on se souvient, parce que c'est le jour de la journée de la visibilité trans, où on se souvient justement de tous les actes transphobes et de toutes les personnes mortes à cause de la transphobie. Et en l'occurrence ici à Marseille, on va aller sur la rue Mazagran ce 20 novembre donc pour rendre hommage à une femme transgenre qui s'appelait Mylène, qui était d'origine équatorienne et qui était TDS, qui s'est faite assassiner de 42 coups de couteau dans la rue Mazagran en 2005. Et donc on va essayer de faire une plaque commémorative tout en lui rendant hommage. Donc,
rendez-vous donc le 20 novembre, rue Mazagran.
Rue Mazagran, c'est ça. Voilà. 18 rue Mazagran, pour être précis. Mais...
Super.
Et il y a aussi cette question de dire, d'accord, ça s'est passé en 2005, qu'est-ce qui a vraiment changé?
Faire un point.
Voilà, mais bon, ça sera pour le jour même, et dans tous les cas, ce sera...
Soyez au rendez-vous, on rappelle le 20 novembre.
Voilà. Et moi... Je voulais juste finir en parlant à mes adelfes trans qui nous écoutent en ce moment et à leur dire, à les inviter un peu, de leur manière, de pouvoir enlever la peur de la honte que le système cis hétéronormatif nous a imposé. Et c'est vrai qu'on nous apprend dès notre plus jeune âge que pour avoir de la valeur de la société, il faut nous conformer à ce qui nous est présenté. Mais en vrai, ne vous conformez pas, mais créez et donnez la naissance à vous-même.
Super, je trouve que c'est un magnifique mot de la fin. Nous allons nous quitter avec le mot de la fin du coup de Flo. Flo, je t'écoute.
Alors, mesdames, messieurs et monestres. monestres étant une civilité comme madame, monsieur, mais pour les personnes non-binaires. Enfin, moi c'est celle que j'accepte. Sinon, ça peut être son excellence ou... ou
son Altesse.
Voilà, non, peut-être pas son Altesse.
D'accord, monestre. Donc du coup, on se quitte avec ce dernier terme, mesdames et messieurs, Zémonestre. Et on se retrouve le mois prochain pour Violet, l'émission qui décrypte l'actualité avec un filtre ultraviolet. Merci à mes invités Sacha, Ono et Flo. Et à la prochaine sur Radio Galère 88.4. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Merci.